Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Assistons-nous à la libanaisation de l'Europe? La guerre des civilisations, des cultes, des cultures est-elle à nos portes? Après la fusillade du Hanau qui a succédé à combien d'autres fusillades, combien d'autres règlements de compte, combien d'autres massacres, on peut se poser la question. Que ce soit en Allemagne, en France, en Angleterre ou ailleurs. Nous allons aussi parler de l'Angleterre, puisque Boris Johnson pose des conditions drastiques pour avoir des visas. L'Europe passoire est-elle en train de se terminer? En tout cas, au Royaume-Uni, c'est clair. Et le climat pourrait-il se rafraîchir, contrairement à ce que disent tous les prophètes d'Apocalypse? On va le voir. Et nous allons recevoir, après avoir parlé des perles de la campagne et autres, nous allons recevoir Chantal Delsol, la philosophe Chantal Delsol, qui a écrit un livre passionnant sur le crépuscule de l'universel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi, effectivement, le régime universel de la pensée est en train de faire place à des régimes non pas spéciaux, mais en tout cas très spécifiques?
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors on ne veut pas le dire, on ne veut pas en parler, vous savez, le déni, le renvoi de la patate chaude, mais incontestablement, il y a quelque chose qui se passe, et qui passe depuis des années, qui est du ressort, on ne dira pas de la guerre des civilisations, on n'emploiera pas tous les mots de Huntington ou de la guerre de religion, on parle de libanisation, mais quelque chose se passe. Et après les attentats en Allemagne du Hanau qui suivent ceux d'Angleterre, de France et d'ailleurs, on est en droit de se poser des questions et surtout, quelles sont les réponses qu'on y apporte et sont-elles véritablement à la hauteur de la situation ?
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga.
Complètement toqué, complètement gaga. Oui, c'est pas une chanson de Pierre Vassilou, toute belle qu'elle soit, qui explique la situation. On le sait. Nous, on se raconte pas ici des histoires. C'est pas seulement parler vrai, c'est parler à découvert. Et il faut se dire que depuis des années, voire des décennies, il y a, en fonction d'idéologies meurtrières, d'identités meurtrières, comme disait l'écrivain Amin Maalouf, en France, en Angleterre, en Europe et ailleurs et dans le monde, bien sûr, en Afrique, avec Boko Haram, en Amérique, eh bien quelque chose où on vise des gens de part et d'autre, parce que ils ne sont pas de la même ethnie que nous, de la même race, si on peut encore employer ce mot, de la même religion, etc. Et en fonction d'une idéologie totalitaire et mortifère, eh bien, il faut les éliminer, ou en tout cas, on attaque. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une cavale meurtrière de Tobias Rajen, dans un bar à Chicha, du côté de Hanau en Allemagne. Eh bien, le bar à Chicha, il a tiré, effectivement. Hanau est une ville de près de 100 000 habitants, à 20 km de Francfort.
Et ensuite, il s'est dirigé vers un autre bar à Chicha.
Voilà, et il a tiré, et il y a eu 9 morts et plusieurs blessés. Donc, l'auteur présumé, Tobias Rajen, conseiller bancaire, etc., il a laissé derrière lui une vidéo de 24 pages où il appelle notamment à anéantir la population d'au moins 24 pays, parmi lesquels celle du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Israël ou encore d'Asie du Sud. Excusez du peu, voilà, il est racialiste complètement. Il était tout seul, on l'a dit, il était muni d'un permis chasse. Et alors, ce qui est frappant dans cette histoire, c'est tout de suite, on parle sans problème, on parle d'extrême droite, de raciste, etc. Raciste, évidemment, c'est clair. Et c'est toujours absolument atroce et immonde de faire ce genre de choses. Mais je suis encore une fois très 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 frappé de fait que quand il s'agit effectivement d'un attentat visant effectivement ou des bars à chicha ou des lieux musulmans ou des lieux d'ailleurs de quelque ordre que ce soit, c'est tout de suite l'extrême droite. Alors l'extrême droite, c'est absolument tout le monde, hein. On met Le Pen, l'AFD, etc., l'AFD allemande, etc.
Là, ça en était un en tout cas.
Quoi?
Pour le coup, l'allemand.
L'Allemand, ce n'était pas quelqu'un d'extrême droite, justement. Non, non, mais vous allez entendre ce que dit quelqu'un qui n'est pas soupçonné de réaction. C'est un spécialiste absolument de ça. Il dit, et je vais le citer tout de suite, qui est Patrick Moreau, qui est chercheur au CNRS, à l'Université de Strasbourg. Il a fait justement une note pour la Fond de la Pôle. Il sait très bien ce que c'est que l'AFD et l'Allemagne. Et on va en parler tout de suite. Mais auparavant, je voudrais dire quelque chose qui est très frappant. Quand il y a eu les attentats, effectivement, sauf ceux du Bataclan et sauf ceux de Charlie Hebdo qui étaient signés, tout le reste, c'est toujours des déséquilibrés. Michael Harpon, qui tue 4 personnes au sein de la forteresse de la préfecture de police de Paris, déséquilibré. Tobili Traoré, qui a massacré Madame Halimi, qui l'a défenestrée, eh bien oui, il avait fumé du cannabis, donc évidemment déséquilibré. Ce qui est quand même hallucinant, quand même. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de poids de mesure. Un meurtre est un meurtre, un meurtre raciste. Il faut le traiter. Voilà. Donc, d'un côté, on dit pas d'amalgame, mais d'un autre côté, quand il y a un blanc ou un espèce de type de, soi-disant de souche. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut être un crétin de souche et un criminel de souche, comme on peut être un criminel de l'autre côté. Eh bien, tout de suite, c'est toute la soi-disant fachosphère extrême droite qui est dedans. Or, pourquoi je vous dis que c'est plus compliqué que cela et qu'il faut vraiment raison garder ? Voici ce qu'écrit dans un très bonne interview du Figaro, Figaro Vox, Patrick Moreau. Je rappelle qu'il est chercheur au CNRS et à l'Université de Strasbourg. Il est spécialiste des questions allemandes. Et il dit, pouvons-nous dire de Tobias Rogen, donc l'auteur présumé des fusillades d'Hanau, son profil est-il représentatif de la partie violence de l'extrême droite allemande ? Question. Moreau répond, Patrick Moreau, non. Il faut absolument distinguer Tobias Rogen de l'extrême droite allemande. Il s'agit d'un complotiste authentique. Tobias Rogen rappelle que les Américains, ils l'appellent à se révolter contre les puissances obscures, etc., etc. Son discours regorge de références à la Chine. Il prévoit par exemple un conflit entre cette puissance et les États-Unis. Pour lui, les peuples inférieurs, notamment les Arabes et Israël, vous voyez, il les met lui dans le même sac, au moins c'est clair, doivent être exterminés. Mais ajoute le chercheur et le scientifique Patrick Moreau, il n'y a pas vraiment de point commun avec le discours national-socialiste traditionnel, le discours nazi, ou avec l'extrême droite politique, style Alternative for Deutschland, ni d'ailleurs avec les revendications environnementalistes. Et il dit, il faut distinguer les choses. Et moi, c'est ce que je dis, il ne faut jamais minimiser quelque chose, mais aller très vite, et c'est vraiment un problème qui nous se pose à tous. Nous sommes enclins, nous, assis sur le bon petit fauteuil, en train d'analyser, de tout de suite amalgamer, de tout de suite dire, voilà, c'est ceci, c'est l'extrême droite, c'est les... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On regarde qui c'est, et il y a eu des revendications, et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des groupes néo-nazis en Allemagne, c'est clair, et ailleurs, c'est clair qu'ils doivent être combattus, sanctionnés, de même que les groupes islamistes, daéchiens et salafistes.
Il y a eu un assassinat politique aussi dans la même veine, c'est pour ça aussi qu'on s'inquiète en Allemagne, parce qu'il y a eu un assassinat politique d'un maire qui était ouvert à l'accueil des migrants.
Mais la vraie question, simplement, il faut le dire aussi, c'est que quand Mme Merkel, qu'on l'on voit aujourd'hui dire « Ah là là, c'est terrible », bien sûr, c'est terrible, Mme Merkel, mais fallait-il, pardon, on ne peut pas faire l'impasse, fallait-il laisser rentrer 2 millions d'immigrés en quelques années ? Fallait-il ne pas, encore une fois, il ne s'agit pas de stopper et de construire des murs, mais on ne peut pas ne pas réguler ce problème d'immigration doit être posée.
On ne peut pas mettre les deux sur le même plan quand même, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la responsabilité politique entraîne les meurtres collectifs.
Sûrement pas, mais quand vous mettez, non, mais il ne faut pas dire ça, mais quand vous ouvrez effectivement tout à des cultures, des civilisations différentes, il y a un problème. Ce qu'il y a eu quand même, franchement, c'est qu'il y a eu une espèce d'ouverture totale, surtout chez la part d'Angela Merkel, et encore une fois, vous ne pouvez pas faire ça, mais dans n'importe quel pays au monde. Je veux dire, on l'importerait aujourd'hui, mais imaginez qu'on importe des millions et des millions de blancs au Sénégal ou ailleurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des cultures, il y a des modes de vie, etc. Et on ne peut pas faire n'importe quoi là-dessus, sous prétexte justement de générosité et de caritatif. Parce que ça ne marche pas comme ça. Mais surtout, encore une fois, arrêtons l'étiquetage immédiat et complet. Il y a un vrai problème, mais moi je vais vous dire, tant qu'on n'aura pas régulé tout cela, et encore une fois, je ne dis pas que les migrants sont des terroristes, ce serait grotesque, je dis simplement que si on ne fait pas cela, eh bien, on voit très très bien, et depuis des années, qu'on va vers des réactions, contre-réactions, et le racisme engendra le racisme, le fanatisme engendra le fanatisme. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Eh bien, on se prépare des lendemains qui sacrément déchantent, et ce n'est pas ce qu'on veut.
0-826-300-300, vous avez entendu André Berkoff. On est ensemble jusqu'à 13h, j'ai bien dit 13h seulement, parce que nous sommes vendredi, ça veut dire que vous nous appelez à tout moment. Vous réagissez, que vous soyez d'accord avec André Berkoff ou pas d'ailleurs, et à tout moment, on vous donne la parole.
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Ah, c'était un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. C'était les punks, c'était les Sex Pistols qui avaient arrangé le God Save the Queen à leur manière. Et bien, en tout cas, ça bouge hein, dans le fameux royaume hein, depuis que Boris Johnson et le Brexit est passé. Par exemple, justement, on parlait d'immigration. Les conditions imposées aux candidats à l'immigration seront beaucoup plus strictes qu'elles ne l'étaient. Un nouveau système à points sera utilisé dès le 1er janvier 2021. Écoutez bien, en Angleterre, pour obtenir son visa de travail, le candidat étranger devra présenter des compétences spécifiques, parler anglais, et avoir déjà une proposition d'emploi avec un salaire minimum annuel de 25 600 livres sterling, c'est-à-dire un peu plus de 30 000 euros. Le diplôme de diplôme requis a été abaissé d'une licence, pour la flexibilité. Mais voilà, ce sera un système à points. Et les visas, encore une fois, seront accordés à... Évidemment, il y aura un quota pour les meilleurs talents, accordés suivant le nombre de points. Et surtout, parler anglais, très, 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 très important. Et avoir une proposition d'emploi. Voilà déjà, d'ailleurs, quelque chose, quel que soit ce qu'on pense, on en pense du bien, on en pense du mal, mais déjà, effectivement, les conditions d'entrée, vous voyez, on en parlait un peu plus loin, vont être, en tout cas, très, très, très durcies, mais au sens où, effectivement, encore une fois, où on met le curseur. Moi, je dis simplement une chose, que les bonnes âmes qui nous gouvernent, qui, eux, sont toujours protégés parce qu'ils ont ce qu'il faut, etc. Ils ont les murs autour de leur maison, ils ont les gardes, ils ont les moyens, effectivement, de se protéger. Pense aussi aux autres qui n'ont pas les moyens de se protéger. Et il faut faire très, très, très attention à cela. Immigration choisie, immigration subie, je crois que vraiment, entre les deux, il faut se décider.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Eh oui, alors sous le soleil exactement, alors là aussi des tests qui s'affrontent, évidemment, toujours des tests qui s'affrontent, et ça fait partie évidemment de la démocratie hein, et de la libre discussion. Alors vous savez que d'un côté on vous dit réchauffement climatique, le climat s'emballe, et on a vu les témoignages qui disaient que si d'ici 50 ans ou même 30 ans il y aura 2 degrés de plus, 3 milliards de personnes vont mourir, on parle de la fonte des neiges, des glaciers, des villes et côtières qui vont être noyées, etc. etc. Et puis, vous avez d'autres qui disent, vous savez, eh bien, c'est un article de la revue scientifique Universal Science Com, un article, c'est une revue scientifique très connue et très respectée aux États-Unis. Il dit que les scientifiques de la NASA ont observé effectivement le climat d'en haut, vous voyez, de l'atmosphère, etc. Et ils pensent qu'il va y avoir si le Gulf Stream diminue, en tout cas sa capacité de réchauffement, eh bien, l'Europe, le climat de l'Europe pourrait se rafraîchir le climat. Alors, il dit comment ça se fait, parce que d'un côté, on dit les températures montent, les pôles, la glace est en train de fondre. Eh bien, ils ont regardé 12 ans de banque de données sur satellite, et ils ont montré qu'il y a actuellement un océan circulaire, un courant circulaire, eh bien, qui devient plus rapide et très violent. Ils appellent ça le Beaufort Gyre. Et ils disent, encore une fois, ces scientifiques, que ça peut influer les courants sur l'océan Atlantique et, en fait, faire que le climat de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire le nôtre, peut se rafraîchir considérablement avec un considérable influx d'eau froide. Alors écoutez, on ne va pas entrer dans cette querelle en disant qui a raison, qui a tort. Je dis simplement, et on le dit, appelons toujours à la prudence, face d'un côté aux gens qui diront « laissez faire la science et tout va aller pour le mieux et tout ça, ça n'existe pas », mais aussi face aux collapsologues et aux prophètes d'Apocalypse qui disent « c'est fichu,
attention,
on est fichu ».
C'est quand même gratiné aussi le scénario qu'ils décrivent là, parce que ça veut dire quand même que pour arriver à perturber un courant aussi ancien et puissant que le Gulf Stream, il faut bien qu'il se passe quelque chose.
C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a ce qu'ils appellent le Beaufort Gyre. Ils disent que c'est un courant, effectivement, qui s'oppose au Gulf Stream, ce que disent ces scientifiques dans la revue. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on doit raison et tête froide garder, prendre des précautions qu'il faut, mais que les gouvernements ne donnent pas, ne tombent pas, ni nous-mêmes, dans les positions soit d'apocalypse, soit de négligence totale et coupable. Je crois qu'il faut être là-dessus, parce que l'émotion est tellement forte sur ces sujets, il faut encore une fois savoir raison garder.
0826 300 300, tout de suite on donne la parole à Michael qui nous appelle de Levallois.
Oui, bonjour Michael.
Et bonjour André, bonjour à tous. Ce serait pour savoir, André, j'aurais une question à vous poser, parce que bon, j'étais plutôt d'accord avec votre raisonnement sur l'attentat de Hainaut.
Oui.
Et, non, Hainaut, pardon, excusez-moi. Hainaut.
Oui, Hainaut.
Et du coup, j'aurais voulu savoir, au niveau journalistique, comment on pourrait faire, d'un point de vue éthique, moral, etc. Parce que normalement, si je me souviens bien, il y a une convention, je crois, de Berlin ou quelque chose comme ça, que les journalistes avaient signé dans les années 90, je crois, oui. Si je ne me trompe pas, qui disait comme quoi ils devaient être neutres, etc. Et comment aujourd'hui on pourrait faire pour que justement les journalistes fassent... Parce que, par exemple, quand il y a un attentat contre l'islam, c'est ce que je disais à la sondardiste, on dit toujours c'est pas l'islam, etc. Quand il y a un attentat d'un blanc, en général c'est l'extrême droite, etc. Comment on pourrait faire pour que les... On va dire la justice puisse enquêter normalement sans que les journalistes y prennent position, etc. Je ne sais pas comment expliquer.
Bon, écoutez, très bonne question. La vérité, c'est très difficile à trancher parce que, d'abord, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, comme vous le savez. Le temps judiciaire, normalement, est un temps long. Le temps médiatique, on réagit évidemment dans l'heure à tout attentat, etc. Maintenant, je vais vous dire, quand vous dites les journalistes neutres, moi, c'est effectivement l'idéal. Je ne crois pas aux journalistes neutres. Je crois aux journalistes. Chacun a ses préjugés ou ses inclinations, il faut le dire, hein, que ce soit politique ou autre. Et on réagit, qu'on le veuille ou pas, en fonction de cela. Mais je crois que là où vous posez une question fondamentale et qui est très compliquée, parce qu'il ne faut pas jeter la pierre aux journalistes en tant que tels. Il faut dire qu'entre le temps de l'enquête, qui prend par essence et par définition du temps, et le temps de dire les choses, eh bien, ce n'est pas du tout le même temps. Alors, on réagit. Et effectivement, et vous avez raison, là où les journalistes doivent être appelés à la responsabilité, ce n'est pas une question, je dirais, de neutralité, c'est surtout une question de responsabilité. Avant de dire oui, c'est l'extrême droite, ou oui, c'est l'extrême gauche, ou oui, ceci, ou oui, cela, ce qu'on voit du matin au soir et du soir au matin, prenez le temps de dire, écoutez, voilà, il y a eu ça, ça c'est un fait, il y a eu attentat. Mais avant d'attribuer à tel parti, à tel mouvement ou à telle mouvance, eh bien, prenons le temps quand même de regarder. Ça, c'est un appel à la responsabilité de tout le monde, y compris, évidemment, des journalistes. Et on est trop tenté, et c'est tout le problème de la nature humaine, je dirais, et je n'excuse pas du tout.
Et ça vaut pour tout le monde, en plus.
Et ça vaut absolument pour tout le monde d'aller faire des amalgames ou aller surtout dire, oui, c'est ça, parce qu'on a envie que ce soit ça. Et franchement, on l'a vu en Amérique, soi-disant la presse, on l'a vu dans la campagne présidentielle de 2016, on l'a vu ici ou ailleurs. Vous savez, les fake news, elles sont partout, qu'elles se sentent dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse et les médias établis. Il faut vraiment prendre le temps. Malheureusement, je ne vois pas, Michael, comment on peut faire, comment on peut obliger les gens. Je répète, et je répète, et je répéterai 10 fois, la responsabilité de chacun est engagée, et surtout de ceux qui sont, au sens littéral du terme, les porte-parole et les transmetteurs d'informations. On doit avoir la rigueur de notre irresponsabilité, je dis la rigueur. Sinon, effectivement, ça ouvre la porte à n'importe quoi.
Merci à vous, Michael. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300, c'est le même numéro. À tout moment, vous nous appelez, vous réagissez, vous nous interpellez, comme vient de le faire Michael. Dans quelques instants, on se retrouve en compagnie d'André Berkoff, qui va vous parler de quelqu'un qui a changé d'idée, changé d'avis plutôt. Il s'agit de Gaspard Ganzer, l'ex candidat à la mairie de Paris. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien oui, dans tous mes états, nous allons d'abord parler d'un changement. Allez, on ne va pas dire retournant de veste. Hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais là, c'est assez croquignolé, mais c'est toujours intéressant. Et puis, à signaler. Et surtout, nous allons parler du plus récent livre de la philosophe Chantal Delsol, Le crépuscule de l'universel. Non, il ne s'agit pas de la réforme des retraites. Il s'agit d'une réforme de la pensée et c'est beaucoup, beaucoup plus essentiel.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Paroles, paroles, paroles.
Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Oui, certes, quand on est un politique en campagne, il faut parler, on parle. Et c'est notamment le cas de Gaspard Ganzer, le jeune et brillant Gaspard Ganzer. Vous savez que c'était le directeur de communication de François Hollande à l'Élysée. Il a été ancien porte-parole de Bertrand Delanoë à l'Hôtel de Ville de Paris avant. Et puis, effectivement, il s'est présenté à la candidature, enfin à la mairie de Paris pour les prochaines élections municipales, qui, on vous le rappelle, hein, c'est dans moins d'un mois maintenant. Alors voilà, pour les Parisiens d'ailleurs, pour toute la France, hein, c'est actuellement dont vous vous préparez, et puis vous y allez. C'est quand même mieux d'y aller que de pas y aller. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Gaspard Ganzer ? Eh bien, il a choisi de rejoindre Agnès Buzyn, la candidate de LREM qui a remplacé Benjamin Griveaux après son forfait. Voici ce qu'a dit Gaspard Ganzer.
Après de 2 ans de campagne menée au sein du mouvement citoyen parisien, j'ai estimé que le moment était venu pour moi de me rallier à Agnès Buzyn, parce que je pense qu'elle peut incarner l'alternative parisienne que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Bien évidemment, j'aurais aimé pouvoir l'incarner personnellement, mais je dois constater que malgré nos efforts, malgré les idées que nous avons déployées, malgré la qualité de l'équipe que nous avons formée, nous n'avons pas pu déclencher de dynamique au niveau municipal.
Et oui, c'est lucide, effectivement.
Il était à 1%,
voilà, dans les sondages. Donc, effectivement, on peut comprendre. Mais, il y a un an, interrogé sur France Inter, à propos d'un éventuel ralliement au parti du président, voici ce que disait le même Gaspard Ganzer.
Mon combat, c'est Paris et les Parisiens.
Vous aviez été un éphémère candidat à La République En Marche aux élections législatives la dernière fois à Rennes, avant d'abandonner finalement. Certains peuvent se demander si vous ne rallierez pas à la fin Emmanuel Macron et La République En Marche.
Ah non, ça n'arrivera jamais, parce que quand je me lance dans une bataille, c'est pour y aller totalement et jusqu'au bout. Il n'y aura ni ralliement, ni rustine à porter aux uns et aux autres. Si on s'est lancé avec les Parisiennes et les Parisiens, c'est pour aller jusqu'au bout.
Bon ben, voilà. Never say never. Ne dites jamais, jamais, jamais. Parce que n'avoue jamais. Hein, c'était le titre d'une autre chanson. Non, c'est ça, vous savez, aujourd'hui, tout se garde, effectivement. Bon, on va pas lui jeter la pierre, hein. Encore une fois, 2 pas à gauche, 3 pas à droite, je retourne la veste et je recommence. C'est ça la plus belle danse, c'est ça la dissidence. Et après tout, on peut comprendre, il n'est pas le seul qui se rallie d'un côté à Dati, de l'autre côté à Buzyn, voilà. Mais, vous voyez, il faut jamais dire, il n'y aura jamais de ralliement, cela n'arrivera jamais, qu'à ce que Gaspard Ganzer, comme les autres, ne doivent pas oublier l'immortelle injonction d'Alphonse Allais. Les poubelles de l'histoire sont remplies de tendances prolongées.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et tout de suite sur Sud Radio, on accueille l'invité d'André Berkoff, Chantal Delsol, auteur du livre Le crépuscule de l'universel, publié aux éditions du Cerf.
Chantal Delsol, encore une fois, vous frappez fort et vous frappez profondément. Chantal Delsol, qui est philosophe, qui est professeur émérite des universités en philosophie, membre de l'Institut, bien sûr, de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous écrivez aussi au Figaro. Vous avez écrit énormément, nombre d'essais. Et effectivement, à chaque fois, c'est vrai, vous visez de façon acérée et approfondie. Et là, vous dites, effectivement, on a vécu pendant des décennies, voire 2 siècles, sur l'idée d'un Occident, comme je dirais, créateur, formulateur du diapason universel, et puis maintenant, c'est fini. C'est un peu ça que vous dites.
Ben oui, c'est ça, c'est fini.
Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou au contraire le regretter, c'est un autre problème. J'essaye juste de dresser un constat, au fond. Parce que pendant très longtemps, depuis deux siècles, au fond, la plupart des cultures extérieures avaient fini par croire, ce qu'on leur avait fait croire, mais elles
l'avaient intégré.
Elles avaient intégré le fait que, au fond, leur futur, leur avenir, c'était de finir par nous ressembler. Et là,
Nous occidentaux.
Donc de s'émanciper de la même manière que nous, etc. Et là, vraiment, on a un recul, je trouve, depuis le début du siècle. En fait, c'est très récent, je dirais.
Depuis un peu 2000,
une trentaine d'années. Voilà, le tournant du siècle, en fait. Et cela de la part de plusieurs cultures différentes. Alors aussi bien en Chine, où vraiment pour la première fois, on nous répond, mais cessez de nous casser les pieds avec les droits de l'homme. On n'en veut pas de vos droits de l'homme. C'est très clair. Il y a un langage très dur. C'est vrai aussi chez les orthodoxes russes, le pouvoir Poutine. C'est vrai dans certains pays islamistes aussi, ou islamiques, enfin bon, discuter. Et puis, en plus, il y a une levée de bouclier contre l'universel occidental au sein même de l'Occident. Donc, c'est les gens qui ont voté Trump. Et puis, c'est un certain nombre de démocraties dites illibérales en Europe centrale.
Alors justement, avant cela, mais Chantal Delsol, je veux un peu, non pas l'avocat du diable, mais l'avocat. Est-ce que, enfin, la Chine n'a jamais adhéré aux valeurs occidentales? Vous dites la Russie. Franchement, c'est pas parce qu'il y avait les bolcheviks et qu'ils avaient suivi Karl Marx que c'était les occidentaux. C'est-à-dire, vous avez l'air de dire que ces pays, pour parler de la Chine, de la Russie, quant aux pays islamiques, à part l'épisode Atatürk et quelques moments de modernité, bon, ils ont suivi leur culture respective. Donc, est-ce que quand même votre propos, est-ce que vous n'enfermez pas un peu pour entrer dans votre schéma, si je peux me permettre?
Bien sûr,
ils ont jamais été ça.
Ce qui est quand même intéressant, c'est que la Chine, jusqu'à présent, même si évidemment vous avez raison, la Chine n'a jamais été une démocratie occidentale, mais jusqu'à présent, elle avait un discours qui acceptait ça. La Chine se disait démocratique. Nous avons même des textes de chinois, de penseurs chinois qui disent « mais nous sommes en fait la première démocratie au monde ». Donc, ils cherchaient, si vous voulez, à récupérer cette tradition et à s'inscrire dedans.
Ils rendaient hommage à cette tradition.
Exactement, c'est ça, exactement. Quant aux Russes, oui, vous avez raison de dire que le communisme russe qui a constitué en fait le régime d'un siècle, c'était pas la démocratie occidentale, mais ça s'inscrivait quand même dans un universel occidental perverti. Perverti, évidemment. Mais c'était un universel, au fond, qui prenait sa source dans la révolution de 89 et autres.
Non, mais là, on vous rejoint, on peut que vous rejoindre, c'est vrai. Est-ce que nous avions l'impression, et c'était ça, qu'on donnait le « là », enfin, qu'on, Occident, donnait le « là
». Nous étions
les maîtres des élégances.
Exactement, hein. Exactement. Et c'est ça qui est en train véritablement de changer, avec aussi le discours d'un certain nombre d'intellectuels très puissants, de plusieurs cultures différentes, ça peut être des Iraniens, ça peut être des Chinois, qui disent, mais écoutez, finalement, votre démocratie, votre culture occidentale, c'est les feuilles d'un arbre, mais si on n'a pas la racine, on ne peut pas l'intégrer.
Oui, c'est ça.
Et au fond, ce n'est pas faux. On a cru trop souvent que, bon, parce qu'on apportait les feuilles, la racine viendrait derrière. Non, ça part de la racine. Et c'est un peu l'erreur qu'on a faite avec les démocraties, les révolutions récentes dans les pays arabes.
Oui, on a essayé, c'est le printemps arabe.
Voilà, que parce qu'il y avait un printemps arabe, tout le reste. Non, la démocratie occidentale, ce n'est pas un outil qu'on prête à quelqu'un. Vous me rendrez la clé anglaise après, ça ne marche pas comme ça. Si on n'a pas une société libérale avant, ça ne marche pas.
Mais est-ce que justement, on ne sait pas, et avec raison, hein, on n'a pas à le regretter. Ce qui est très intéressant, vous voyez, juste deux mots, quand vous dites ça, c'est vrai qu'on peut se rappeler un discours de Abdel Nasser en 53, qui attaquait le voile en disant « arrêtez avec le voile, on n'en a rien à faire du voile ». C'est une célèbre vidéo qui circule sur tous les réseaux. Il y a eu Atatürk avec la laïcisation de la Turquie, et avec Erdogan, on a vu où c'est arrivé. Mais simplement, juste un mot là-dessus, est-ce que nous-mêmes, nous n'étions pas nous vivions pas d'illusions. Est-ce que ce n'est pas parce que, je veux dire, il y avait Voltaire et d'Alembert et Rousseau ou Diderot, mais en dessous, il y avait encore toutes les oppressions. Je veux dire par là que... Non, je m'explique, je ne dis pas que les démocraties occidentales ne sont pas les démocraties occidentales, mais on ne s'est pas bercé d'illusions et sur le fait que nous étions universels.
Ah ben ça, la question de savoir si nous sommes vraiment universels ou pas, oui, c'est pratiquement une autre question que je ne pose même pas. Je pose simplement la question des critiques de notre universel. Après, le fait de savoir si nous le sommes vraiment, au fond, j'ai tendance à penser, mais j'en parle très peu dans le livre, parce que c'est encore, je pense que c'est encore une autre question.
Ce sera votre prochain livre, ça.
j'ai tendance à penser qu'au fond, l'universel, c'est une promesse. Vous voyez, donc c'est probablement un idéal. Je pense que tous les peuples cherchent au fond une sorte d'émancipation, mais en prenant en général beaucoup plus de précautions que nous. Et peut-être d'une certaine manière ont-ils raison parfois, parce que je pense que nous allons beaucoup trop loin et trop fort. Donc
on va en parler, Chantal Delsol, après tout ceci.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, le face à face.
Et nous continuons notre conversation avec Chantal Delsol, ce livre passionnant que je vous recommande, Le crépuscule de l'universel, parce qu'il faut, aller en profondeur. Vous savez, si on veut comprendre ou parler, là, un peu plus tôt dans l'émission, si on est sur le nez sur le guidon, eh ben, beaucoup de choses nous échappent. Donc, prendre le temps de lire, prendre le temps d'aller en profondeur, avec notamment ce livre, Le crépuscule de l'universel, publié aux éditions du Cerf. Chantal Delsol, vous expliquez dans votre livre que même au sein de l'Occident, il y a eu ce qu'on appelle une dissidence qui dit « mais oui, mais l'Occident, c'est fini, c'est mort, d'abord c'est colonialiste, c'est raciste, c'est oppresseur, etc. etc. » Quand ça a tourné comme ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors là, vous parlez d'un excès, en fait. Où les Occidentaux... se sont mis à dire, au fond, tout le passé était affreux, il n'y a que nous qui sommes purs. Vous savez que les Canadiens, quand ils parlent du passé, ils appellent ça la grande noirceur, ce qui était absolument effrayant.
Le passé, la grande noirceur.
La grande noirceur, c'est effrayant. Bien, ouais. Alors ça veut dire, au fond, que nous sommes restés dans l'esprit utopique du communisme. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes persuadés que c'est nous les parfaits. Et nous cherchons une perfection en rejetant dehors tout le reste.
Et nous allons apporter le bonheur à l'humanité, nous savons ce qu'est le bien.
Exactement.
C'est le camp du bien.
C'est aberrant. Ouais. Nous sommes le camp du bien. Ouais. Et en réalité, ce qui est critiqué dans tous ces courants dont je parle, aussi bien extérieur, culture extérieure que intérieure même, je parle de ceux qui votent Trump ou de ceux qui votent Orban, ce qui est critiqué, c'est notre excès, c'est pas l'occidentalisme en tant que tel. Ce sont pas des gens, de manière générale, qui récusent la liberté de la personne, enfin, les Chinois, c'est pas dans leur culture.
Mais pas Trump, ni Orban.
Et au contraire, ils veulent que la conscience d'Antigone continue à se développer. Mais ce qu'ils rejettent, ce sont les excès. Poutine, qu'est-ce qu'il rejette, au fond? Il rejette le fait qu'on n'a plus le droit de donner une fessée. Il dit, vous êtes complètement folle dingue, quoi.
Il rejette le droit qu'il faut interdire papa-maman.
Voilà. Hein, ou le fait qu'un enfant de 12 ans peut dire, je suis un garçon, mais j'ai envie d'être une fille, donne-moi des médicaments, maman. C'est ça qu'il rejette. Il rejette nos excès. Il faut bien reconnaître que nos excès sont quand même nombreux, actuellement. Et au fond, on finit par être identifié à nos excès. C'est ça qui nous plombe.
Alors, d'où vient cette déconstruction, en tout cas déjà intellectuelle et conceptuelle, qu'on a vu dans les campus américains, mais aujourd'hui en France, ô combien, cette déconstruction de cet universel occidental? Parce qu'il y a une tentative, en tout cas, réelle et actée de déconstruction.
Enfin, de déconstruction ou d'excès de l'universel. Ou d'excès de l'universel, oui. On finit par ne plus accepter le moindre enracinement, la moindre particularité, et par vouloir que tout soit abstrait, mondialiste, universel, voyez.
Oui, mais Chantal Delsol, pardon, ce n'est pas l'universel que cherchent les, et encore une fois, j'ai pas de clé, les LGBT, les racisés, les indigènes de la République, etc., etc. Ils disent, votre universel, ça n'existe pas, en fait, c'est une manière et un masque pour nous opprimer. C'est ça qu'ils disent, enfin.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'il y a ça aussi. Je pense qu'on est quand même dans un moment de grand affolement. On ne sait plus très bien où on va. D'abord, puisque vous posez la question des causes, qui est quand même très très difficile,
bien sûr,
je pense que le XXe siècle nous a carrément... nous a mis par terre.
Avec les guerres et les grands massacres et tout.
Les deux grandes guerres. Le nazisme, je pense que ça a été, c'est quelque chose de très très grave dans nos mentalités, dans notre manière de vivre, dans la confiance que nous avons, ou plutôt que nous n'avons plus, envers notre propre culture. Et tout ça peut se comprendre. Savoir que, bon, le nazisme s'est déroulé alors que nous étions des adeptes de Goethe. Si on est allemand. Mm-hmm. Mais tout ça, je pense que c'est tellement inacceptable que ça nous a beaucoup, ça a beaucoup bouleversé nos mentalités, nos idées, notre manière de voir. Je pense qu'il y a aussi la fin de la chrétienté, parce que la fin de la chrétienté, on peut la situer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais quelque chose qui a 2000 ans et qui est vraiment en train de se terminer, c'est pas le christianisme qui se termine, c'est la chrétienté. C'est-à-dire le fait que le christianisme avait barre sur tout et que quand on se demandait si on avait par exemple le droit de pratiquer un IVG, on appelait une assemblée d'évêques pour savoir si oui ou non on pouvait. Maintenant c'est fini, on appelle un comité d'éthique où vous avez un catho, un athée, un franc-maçon. Et ça, c'est la fin de la chrétienté. Et je crois que ça, c'est aussi un bouleversement.
Oui, c'est un phénomène
profond qui n'est pas négligeable. Alors actuellement, on ne sait plus très bien où on va parce qu'on a, on est à la fois, on est ballotté entre, du nihilisme, parce qu'il y en a un peu. Mm-hmm. Je pense que le mariage pour tous, c'est du nihilisme. Enfin, on peut en reparler si vous voulez, mais des valeurs païennes. C'est-à-dire un retour au paganisme, ça revient normalement parce que quand la chrétienté s'efface, on revient à une sorte de culture naturelle, enfin si vous voulez, une soupe primordiale, un truc comme ça.
Le paganisme ayant précédé la chrétienté.
Voilà, exactement. Donc le paganisme, l'IVG par exemple, ce sont des mesures païennes, tout simplement. Hein. Et puis, des valeurs chrétiennes devenues folles, pour reprendre le mot de Chesterton, à savoir la compassion universelle, la volonté de pureté universelle, c'est toutes les valeurs du Christ, mais... qu'au lieu de laisser dans le ciel, parce que le Christ avait laissé dans le ciel, on veut absolument appliquer sur la terre. Donc on a ce doux mélange de toutes sortes de choses, l'affolement devant le nazisme, l'affolement devant toutes ces valeurs différentes qui surgissent et qu'on est vraiment dans le vide. Et je pense que tout ça, ça crée en fait un certain nombre de courants tous contradictoires. Vous voyez,
plus l'islamisme qui a surgi.
En plus, il y a ça, bien sûr.
Mais alors, dites-moi, vous intitulez votre livre Le crépuscule universel. Alors, c'est fini ? Enfin, vous.
Je ne vois pas comment ça pourrait revenir, parce que, vous voyez, ça
va. Vous pensez que c'est vraiment la fin ?
Le fait que. oui, parce que. C'était né après la Révolution française. Hein.
Oui, bien sûr.
Tout a commencé là. Bah, c'est pas si vieux, au fond.
Les Lumières.
Et puis ensuite, le colonialisme qui a assis tout ça, quand même. Et bon, je pense que maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut vivre ça autrement. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas à notre occidentalité. Moi, j'y crois, personnellement.
Vous croyez aux valeurs de
l'Occident, à notre culture. Mais ça va devenir une culture particulière. Il faudra la défendre comme telle.
Culture particulière de monades atomisées, comme il y aura d'autres monades atomisées. Enfin, il y aura des archipels, comme
exactement.
On dit.
Exactement. Oui, je pense qu'il faut le voir comme ça. Ouais. Il faut l'accepter comme tel.
Oui, mais alors, la vraie question, Chantal Delsol, vous le savez, est-ce que ça va se passer pacifiquement ou au contraire, une guerre de civilisation dont on ne connaît pas l'issue, quoi.
Ça pourrait arriver, vous avez raison. Et il pourrait même y avoir des sortes de guerres civiles, que je mets entre guillemets, parce que ça revient pas forcément à la violence, mais au sein même de l'Occident.
Oui, c'est ça, absolument.
Parce que quand on voit quand on voit à quel point c'est fort, hein, les courants illibéraux, ils sont très...
Et actifs,
ils sont très excédés, très excédés.
Absolument.
Et en face, ceux qui leur font face sont très excédés aussi.
Excès, quand tu nous tiens. Merci Chantal Delsol.
Et le crépuscule de l'universel, c'est l'ouvrage de Chantal Delsol, notre invité que nous remercions. Ouvrage publié aux éditions du CERF. Merci à vous. Merci à vous également André Berkoff. On retrouve à midi, lundi prochain, dans tous vos états, en direct, à midi sur Sud Radio. Évidemment, on peut vous retrouver samedi, dimanche et lundi au Théâtre de Poche Montparnasse pour le cabaret politique Ciel Montparis. Notre journée, elle continue à l'écoute de Sud Radio, puisque dans quelques instants, d'abord on aura les informations et ensuite les clés d'une vie avec Jacques Pessis qui aujourd'hui reçoit son invité Jean-Jacques Benex. Excellente journée et excellent week-end à vous sur Sud Radio.